Est-ce qu'il faut que je me présente ou pas? Je ne sais pas.
Volontiers.
Volontiers. Donc, Sébastien Keller, donc je suis ingénieur informaticien, chercheur même depuis quelques années en informatique, principalement en sécurité informatique et également sur les plateformes d'intelligence artificielle. Et donc, je me suis converti il y a 30 ans. Ça fait quand même déjà quelques dizaines d'années. Je sais qu'il y en a qui me battent largement ici, mais voilà, ça fait déjà un petit temps. Et je suis marié avec Séverine, que plusieurs d'entre vous connaissent, et j'ai une fille Agathe également. Donc ce soir, je vais vous parler de l'épître de Jude. Alors il me semble, Pierre pourrait le confirmer éventuellement, c'est que l'épître de Jude était utilisée il y a bien longtemps dans le Bals pour former, pour donner des idées pour comment étudier un texte, parce que le texte avait l'avantage d'être assez court et permettait de faire quelques petits travaux pratiques et d'aider les gens à voir comment étudier un texte. Alors pour ce soir, ce que je vous propose, c'est de parcourir le texte. On va rester très près du texte et je vais surtout essayer d'apporter des compléments parce que cet épître contient beaucoup d'originalité, d'allusions, de références qui ne sont pas toujours évidentes. Et donc l'idée, c'est déjà de débroussailler tout ça. C'est d'ailleurs pour moi, ça a été pour moi l'occasion au travers de l'étude d'aller un peu plus loin que d'habitude. J'avais déjà étudié cette épître, mais je n'étais jamais allé aussi loin dans les compréhensions de toutes les petites particularités. Donc c'est ce que je vais vous partager ce soir. Et à différents moments, essayer de voir en quoi on peut appliquer cette épître à nous aujourd'hui. Donc je vais partager mon écran maintenant. Voilà. Est-ce que vous voyez?
On voit. Très bien.
Très bien. Donc, étude du livre de Jude, comme je venais de le préciser. Donc, en termes de plan, ce que je propose, donc, c'est déjà d'introduire l'épître par rapport aux différentes informations qu'on y trouve habituellement, quel est l'auteur, les destinataires, etc. Et ensuite, de reprendre un des plans que j'ai proposé pour cet épître, les différentes parties où chaque fois nous aurons l'occasion de lire le texte et de revenir, de voir quelques clés de compréhension, comment l'interpréter et également, dans plusieurs cas, comment l'appliquer dans nos vies. Donc, salutations, occasion et but de la lettre, une première partie. Ensuite, les rappels sur le jugement de Dieu qui était effectif, qui est une réalité. Les caractéristiques des impies qui sont mentionnées dans cette épître. Le jugement qui les attend. Ensuite, nous reviendrons par rapport aux fidèles, l'exhortation, comment les encourager à lutter contre ces dérives qui amènent à avoir ces impies dans l'assemblée. Une doxologie finale et une dernière partie sur les enseignements et la conclusion que nous pouvons tirer. Donc, en termes d'introduction, on va commencer par l'auteur. Alors, l'auteur, c'est dans le premier verset, Jude, frère de Jacques. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de comment on devine qui est Jude et de quel Jacques on parle. Donc, c'est intéressant de regarder la méthodologie qu'on peut trouver chez les commentateurs. Donc, en gros, ils ont regardé quels étaient les Jude ou Judas mentionnés dans le Nouveau Testament. Donc, ça, on en a 10 mentions. Donc, on en a qui sont à écarter. On a Judas, fils de Joseph, Judas, fils de Jacob dans la généalogie de Jésus, mais ils ne sont pas candidats. On a Judas le Galiléen, cité par Gamaliel à l'origine d'une révolte, mais pareil, il était mort sûrement à ce moment-là. Un Judas chez qui Saul va séjourner à Damas. On a un Judas appelé Barsabas, qui est mentionné dans Actes 15, qui a accompagné Paul à Antioche, suite au concile de Jérusalem. Et on a naturellement aussi Judas Iscariote qui a trahi Jésus. Donc, tous ces Judas ou Jude, hein, c'est le même prénom, on peut les écarter assez facilement. Il en reste deux. Alors, il y a l'un des 12, cité en Luc 16, Jude, fils de Jacques, donc un des apôtres, un des 12, qui est cité également en Actes 1, verset 13. Mais nulle part il est mentionné qu'il est frère d'un Jacques. Et il reste Jude, mentionné comme un des frères de Jésus, qui est mentionné en Matthieu 13 et en Marc 6, Marc 6, 3, et donc un Jude, frère de Jacques. Alors là, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de Jude ou Judas candidat. Et ensuite, on regarde les Jacques. Et là, pareil, on en a quelques-uns. Donc, on a le père de l'apôtre, hein, le père de l'apôtre Jude, qui s'appelle Jacques. Mais bon, ce n'est pas son frère, donc ça ne va pas bien. On a un Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, l'un des douze. On a un Jacques, fils d'Alphée, l'un des douze. Et on a le Jacques, frère de Jésus, qui, donc également, qui est mentionné avec Jude. Donc, c'est ça qui indique et qui pousse à penser qu'on était plutôt vers ce Jude, frère de Jésus, frère également de Jacques, et donc qui vont utiliser cette mention en tant qu'auteur pour asseoir cette épître. Alors, c'est important parce que l'autorité qui est derrière l'épître va permettre, par exemple plus tard, de faire que cette épître soit intégrée dans le Nouveau Testament, dans le canon, parce que voilà, elle va s'appuyer sur des gens connus, des gens reconnus, et notamment donc Jacques, qui était un des piliers de l'Église de Jérusalem. Alors, par rapport à la datation, là, c'est pareil, on n'a pas énormément d'éléments. Alors, on peut avoir quelques idées. Donc, on a des versets, comme le verset 3, « Combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes ». Donc, voilà, on a l'idée qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été abouties. Donc, une épître peut-être un peu plus tardive, et pas simplement dans les premiers temps apostoliques. On a aussi le verset 17, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pareil, l'idée que ça a été fait, on est dans quelque chose qui a été, qui est dans le souvenir, qui a été établi. Donc c'est ces éléments-là qui en général amènent les gens à penser que cette épître est plutôt vers l'an 60, vers l'an 70, voire même plus tardif. Donc un peu les dernières épîtres qu'on aurait dans le Nouveau Testament. Alors c'est intéressant parce que si elle est tardive, ça veut dire aussi que l'Église est déjà bien installée, qu'il y a des écrits circulent, la théologie est à peu près bien établie, et on n'est plus dans une Église qui est en train de se construire et qui se cherche. On est dans quelque chose, dans une Église déjà beaucoup plus installée. Il faut mentionner que, alors, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais juste après Jude, on a le livre de l'Apocalypse qui va reprendre dans les premiers chapitres les condamnations à des églises. Et pareil, où on voit des églises qui sont elles-mêmes aussi relativement établies, stables, dans lesquelles il y a plusieurs... relativement stables, dans lesquelles il y a plusieurs dérives, mais ce sont des églises, on va dire, établies. Alors ensuite, les destinataires et le lieu de composition. Alors pareil, sur les destinataires, on n'a pas énormément d'informations. On sait simplement que les destinataires correspondent à une église ou un groupe d'églises qui rencontre des problèmes, un problème précis qui est mentionné au verset 3, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. » Donc, il y a manifestement des gens dans l'église qui ne devraient pas y être ou qui posent des problèmes. On voit également et on y reviendra plus tard, par les citations apocryphes, que les destinataires avaient une bonne connaissance des traditions juives. Et donc, c'est des gens qui étaient baignés dans cette tradition. Donc, sûrement des gens qui étaient ou juifs ou judéo-chrétiens. Et pour qui, d'ailleurs, on peut aussi imaginer Jacques, responsable de l'église de Jérusalem, avait du poids, quoi. D'un autre côté, on a une épître qui est relativement bien écrite en grec, et c'est vrai qu'on ne voit pas trop d'allusions ou d'hébraïsme dedans, donc on pourrait aussi penser qu'elle s'adresse à des gens qui ont un bon niveau de grec. Mais voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais on a quelques idées à peu près basées là-dessus. Donc c'est une église qui voilà, a des traditions juives, qui est relativement établie, dans laquelle il y a des gens qui seraient venus et qui auraient posé quelques problèmes. Alors on a imaginé, qu'on trouve dans les commentaires, alors on parle d'influence prégnostique de type antinomiste et libertin. Bon, alors c'est pas toujours très simple à expliquer. Donc gnostique, donc c'est des mouvements qui sont arrivés, qui ont été connus plus tardivement, mais qui avaient tendance à séparer le spirituel du charnel et à être sur des notions d'initiation, à vraiment séparer le charnel, du coup, à le mettre de côté et dans certains cas à lui permettre de faire un peu n'importe quoi. de type antinomiste, c'est des gens qui refusaient la loi, qui refusaient l'obéissance, et libertins par rapport aux débauches d'ordre sexuel. Alors, le lieu de composition, on peut faire le lien entre la personne, l'auteur, les destinataires, et donc imaginer que c'est quelqu'un à peu près dans la même zone. Et pour ça, donc, on a imaginé que ça pouvait être relativement proche d'Israël, peut-être la Palestine, la Galilée, l'Égypte, ou voire la Syrie. Alors, continuons sur l'introduction. Alors, les particularités, il y en a plusieurs qui sont vraiment propres à l'épître de Jude. Alors, les triades. Alors, les triades, c'est le fait d'avoir trois notions qui sont souvent associées ensemble dans un verset ou dans un paragraphe. Donc, on peut trouver jusqu'à 15 triades dans cet épître. Donc, par exemple, Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques. Ou alors, ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés et gardés. La miséricorde, la paix et l'amour. Alors après, il y en a sur la structure du texte. Par exemple, on aura par rapport au rappel du jugement, Israël au désert, les anges déchus, les sodomites. On aura aussi par rapport aux caractéristiques, souille la chair, méprise la souveraineté, insulte les gloires. Ou on aura encore trois exemples de caractéristiques d'impie, Caïn, Balaam et Corée. Donc il y en a jusqu'à 15, on peut en relever jusqu'à 15. Alors bon, c'est pas ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous permet d'imaginer que dans cet épître, voilà, s'il y a une règle un peu de trouver les choses par trois, voilà, quand on va la découper, quand on va chercher des interprétations, ça peut valoir le coup de se poser la question si on n'a que deux éléments ou un élément. Peut-être ça vaut le coup de chercher des groupes de trois. Autrement, par rapport à son vocabulaire, c'est un grec qui est considéré d'assez bon niveau, avec un vocabulaire assez riche. On a une quinzaine d'apax. Donc les apax, ce sont des mots qui ne se retrouvent qu'une fois dans cet épître-là et nulle part ailleurs. Donc ça montre un vocabulaire qui n'est pas complètement dépendant de l'existant du Nouveau Testament. Il y a beaucoup de tournures grecques, beaucoup de parallèles, beaucoup d'opposition, il y a une construction qui en général est assez propre. Et en dernier point par rapport à ses particularités, sa proximité avec deux pierres. Donc deux pierres 2 notamment, reprend une bonne partie des éléments de l'épître de Jude. Donc bon, je le dis comme ça, mais la question c'est qui a inspiré qui, hein, ça c'est une question qui divise naturellement les commentateurs, parce qu'on a des choses assez similaires. Et donc on voit quand même quelques différences. Hein. Il y a ce qui est dans deux pierres, il y a certaines choses qui sont gommées, des destinataires qui ont plus l'air d'être des faux docteurs que des impies. Et donc une destination qui est un peu différente. Alors personnellement, moi je pense plutôt que c'est deux pierres à réutiliser Jude. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve l'essentiel de Jude dans deux pierres et pas l'inverse. Et Jude est très bien construit, donc pour moi ça me paraît difficile d'imaginer quelqu'un reprenant certains éléments de deux pierres et arrivant à recréer un peu cette qualité, ce plan et cette cohésion qu'on va retrouver dans Jude. Mais bon, là il n'y a pas d'affirmation possible plus forte qu'un avis personnel sur ce point-là. Alors dans les autres caractéristiques, les controverses. Alors il y en a quelques-unes. Les citations s'appuyant sur les apocryphes. Alors on a, verset 6, on nous parle des anges, on nous parle au verset 9 sur la mort de Moïse par rapport à l'Assomption de Moïse, les éléments qu'on retrouve dans l'Assomption de Moïse, et au verset 14, une citation explicite du livre d'Enoch. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, parce que, voilà, comment on peut citer les apocryphes, surtout le verset 14 qui mentionne le livre d'Enoch. Pour les autres, on pourrait, à la limite, ça peut passer plus discrètement, mais dans le cas de la citation du livre d'Enoch, ça ne passait pas trop bien. Ce qui fait qu'une de ces controverses a été notamment son acceptation dans le canon, et ça fait partie des dernières épîtres qui ont été acceptées, notamment à cause de ce problème-là. Mais également, c'était le cas pour 2 Pierre, 2 Jean, 3 Jean, voilà, les épîtres peut-être un peu plus tardives, et elles particulièrement à cause de cette citation de livres apocryphes. Alors, j'ai relevé par exemple qu'elle avait été relativement, elle était attestée assez tôt, au IIe siècle. Elle est référencée, elle est mentionnée par les pères de l'Église, notamment à Rome, en Égypte, à Carthage, mais pas en Syrie, et notamment Antioche, où elle est acceptée assez tardivement. Et Saint Jérôme, avec le traducteur de la Vulgate, mentionne qu'elle est controversée à cause de ses citations apocryphes, mais que son authenticité et l'usage qu'on en fait justifient complètement sa place dans le canon. Donc ça, c'est un point assez intéressant dans Jude, c'est que l'enseignement qu'on en tire, en général, ne pose pas de difficultés. Ce qui pose difficulté, c'est plutôt son origine et ses références. Et en dernier point sur la controverse, peut-être aussi le fait que, par exemple, Luther était contre sa place dans le canon, alors que Calvin était pour. Donc on voyait que même les réformateurs étaient divisés sur le sujet. Par rapport aux manuscrits, on a retrouvé différents manuscrits, on a consolidé une version de référence en grec, et il y a deux points qui sont particulièrement variés au niveau des manuscrits. On n'a pas une seule version, mais quand même plusieurs versions. La première sur verset 5. Donc, j'en parlerai pas spécialement parce que, en regardant toutes les traductions, j'ai vu très peu d'impact. Globalement, les traducteurs sont à peu près tous d'accord. Mais là où il y a plus de difficultés, c'est les versets 22 et 23, où là, il y a une variété de manuscrits, mais ça a donné une variété de traductions. Et je montrerai un exemple, du moins trois traductions qui montrent un peu une partie de l'étendue de la variation qu'on peut avoir sur ce passage-là. Alors, parlons un peu du livre d'Enoch, hein, qui est quand même vraiment la grosse spécificité de cette épître. Attendez, voilà. Donc, le livre d'Enoch, qui est appelé un Enoch ou Enoch éthiopien, c'est un écrit pseudépigraphique. Donc, ça veut dire que l'auteur, c'est un écrit qui est associé à Enoch, mais on sait que ce n'est pas Enoch qui l'a écrit, de l'Ancien Testament attribué à Enoch, arrière-grand-père de Noé. Donc, le livre d'Enoch a été écarté du canon juif. Il n'a pas été non plus dans la Bible des Septante, qui contient pourtant d'autres apocryphes, mais il était déjà écarté à ce moment-là. Et les chrétiens l'ont définitivement écarté lors du concile de Laodicée, où on voit la liste des livres qui ont été acceptés, et il n'est pas dedans. Donc, il est accepté par l'Église éthiopienne orthodoxe, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, la principale version complète que l'on a vient de l'Église éthiopienne. Et c'est pour ça qu'on parle de l'Enoch éthiopien. Alors, la composition des différents livres, vont du 4e siècle au 1er siècle avant notre ère. Alors, des parties auraient été faites en hébreu, d'autres en araméen. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé des extraits en araméen dans les manuscrits de la Mer Morte. Donc voilà, ça circulait et certains le prenaient parmi leurs manuscrits importants. Et donc, pour compléter sur l'Enoch éthiopien, il composait de 5 livres précédés d'une introduction. Et le premier livre, le livre de Déveilleur, c'est là où on trouve la plupart des références qu'aurait pu utiliser Jude dans son épître. Et donc, ce livre décrit la rébellion à la chute des anges déchus. Et en fait, est basé sur des voyages visionnaires d'Enoch, qui va au ciel, qui va aux enfers, et qui revient, et qui fait un peu le bilan de ce qu'il a vu et des échanges qu'il a eus avec les archanges. Alors, c'est un style apocalyptique, hein, c'est-à-dire que c'est sous forme de révélation. C'est un voyage qu'il fait au travers de visions. Il revient et il livre ses visions. Alors, par rapport au plan, ce que je vous propose comme plan, c'est bon, les morceaux classiques d'une épître, hein, les versets 1 et 2 pour la salutation et la doxologie finale en versets 24-25. Une première partie qui va rappeler le but de la lettre, pourquoi cette lettre a été écrite, les versets 3-4. Ensuite, le corps de l'épître, hein, qui va parler du jugement des impies et donc. Une première partie sur les rappels sur le jugement de Dieu, une deuxième sur les caractéristiques des impies, et une troisième partie sur le jugement des impies. Ensuite, une exhortation qui est particulièrement adressée aux gens qui ne sont pas les impies. Donc maintenant, on va reprendre ces différentes parties et ça va nous permettre à chaque occasion de lire le texte. Alors. Donc, les salutations et l'occasion et but de la lettre. Donc, je vais vous le lire. Donc, j'ai choisi, bon, c'est un choix, mais la version La Colombe, qui est une version que j'ai eue pendant très longtemps, et voilà, j'ai fait ce choix-là. Il y a d'autres bonnes versions, mais toutes les références que je vais faire là sont tirées de cette Bible à La Colombe. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc là, je ne vais pas revenir sur une partie de ces versets que j'ai utilisés dans le cadre de l'introduction. J'ai mis en gras quelques mots qui sont intéressants à mentionner. La notion de miséricorde, alors là où beaucoup d'autres, dans plusieurs autres épîtres, on va nous parler de grâce, paix, amour, là on parle de miséricorde. Alors le petit moyen mnémotechnique pour me souvenir de la définition de la miséricorde et de la grâce, la différence, bon, c'est pas complet, mais c'est un moyen de retenir, c'est que la grâce, c'est de recevoir ce que nous ne méritons pas, et la miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. Et je pense que c'est intéressant de mentionner la miséricorde de la part de Jude ici, parce qu'il est dans la condamnation de certains actes. Et donc, voilà, c'est parler de comment ne pas recevoir les conséquences de la condamnation. Peut-être pour ça que l'auteur a choisi miséricorde et non pas grâce. Vous soyez multipliés, donc là où d'autres pourraient dire vous soyez donné en abondance, la multiplication est intéressante, c'est quelque chose au niveau mathématique, qui donne une augmentation beaucoup plus rapide. Ensuite, une phrase qui m'a interpellé très tôt au moment de l'étude de cette épître, la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Et la foi devient, dans le cas de l'épître de Jude, un élément de transmission, un élément défini. C'est pas n'importe quoi, ça a une définition, ça a été transmis, et voilà, il faut s'appuyer là-dessus. Alors ça me fait penser, c'est une remarque que j'avais faite quand Jean-Louis avait parlé d'Abraham. C'est vrai qu'Abraham, on a très peu d'éléments sur la foi qui l'animait. Donc on voit sa foi, on peut déduire certaines choses de sa foi au travers de l'obéissance exemplaire qu'il a eue. Mais voilà, c'est là on parle d'une foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dernier point sur le verset 4. Ce qu'il va condamner dans l'épître, dans toute l'épître, ce sont ces impies. Les impies, ils ont deux caractéristiques. Ils changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, une critique de l'autorité en reniant Jésus. Et il y a également le dérèglement. Alors, le mot dérèglement derrière, c'est vraiment... Il change en vice. Hein. Quelque part, c'est un mot assez fort. Hein. C'est quelque chose qui a un vice assez important, voire sans limite. Et ce qui est choquant, c'est de voir que la grâce de notre Dieu, ce que Dieu nous a apporté, notamment le sacrifice de son Fils, est détournée et à mauvais escient. Donc maintenant, parlons du rappel sur les jugements. Donc pareil, je vais vous lire ce passage-là, les versets 5 à 7. À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Donc là, Jude va rappeler trois jugements forts qui ont été faits au peuple de Dieu. Donc le premier fait référence donc au peuple juif que Dieu a fait sortir d'Égypte, a libéré du joug égyptien. Et donc, on trouve, là j'ai mis quelques références comme Exode 12, 51, et pourtant il va annoncer un jugement sur le peuple, il va leur annoncer qu'ils ne verront pas la terre promise, il va être très dur par rapport au comportement qu'a eu le peuple, alors qu'il l'avait sauvé, il l'avait accompagné, il lui avait fourni tout ce qu'il fallait. Donc, on pourrait dire en résumé, le peuple avait tout, mais ils n'ont pas été à la hauteur de ce que Dieu leur avait donné, ils ont murmuré, critiqué, voire, dans certains cas, adorer des idoles. Et on peut voir également un autre exemple de jugement, c'est le cas du veau d'or, où face à l'idolâtrie du peuple juif, Moïse, avec, je crois, les Lévites, vont traverser le camp et tuer 3000 personnes. Donc, il y a ce rappel pour dire, voilà, il y a des gens du peuple, ce n'est pas un autre peuple qui est en dehors du peuple élu, c'est vraiment dans le peuple élu, dans le peuple choisi par Dieu, il y a eu déjà ce jugement-là, et donc, sous-entendu, Dieu peut juger à nouveau son peuple. Alors la deuxième partie, c'est sur les anges. Alors là, c'est un passage où on n'a pas beaucoup de références pour pouvoir l'étayer, donc sûrement un passage qui s'appuie sur des traditions juives. Alors en creusant un peu, la tradition juive sur ce problème des anges qui se sont voilà cette histoire des anges qui ont été enchaînés, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. On l'appuie beaucoup sur le passage de Genèse 6, les versets 1 à 4, dans lequel, alors je vais vous le lire, « Lorsque des hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. Donc sur ce passage-là, beaucoup de traditions juives ont associé les fils de Dieu aux anges, et donc le reproche qu'on retrouve dans la tradition et qui est mentionné dans le livre d'Enoch, hein, je donne les références du livre d'Enoch, chapitre 10 et chapitre 12. Ce qui est reproché, c'est le fait que les anges qui avaient été choisis par Dieu, qui avaient un rang, qui avaient une certaine forme de hiérarchie, ont préféré aller vers les femmes humaines et donc, entre guillemets, coucher avec elles, avoir des enfants, et quitter leur rang. Et donc, on voit dans le livre d'Enoch que la condamnation, c'est un enchaînement perpétuel en attente du jugement dernier. Le troisième point, c'est sur Sodome et Gomorre. Donc là, par rapport à Sodome et Gomorre, on nous parle de vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et donc là, on s'appuie sur Genèse 19, 1 à 6, le passage où les anges vont chez Lot. Lot les héberge et en fait, la population de Sodome vient et veut coucher avec les anges. Et donc, ce qui est reproché à ce moment-là, c'est le fait que des hommes veulent coucher avec des anges. Et donc, c'est là qu'on parle de contre-nature. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ce jugement est toujours d'actualité aujourd'hui dans nos églises? Est-ce que ça serait bien de rappeler ces éléments de jugement? Alors il faut voir que l'épître de Jude, elle s'adresse à des gens qui sont dans une église ou dans un groupe d'église. Ce ne sont pas des gens en dehors de l'église, parce que c'est vrai que condamner les gens pour leurs pratiques, pour leur immoralité, ça serait assez évident pour des gens en dehors de l'Église. Mais dans ce cas-là, on est vis-à-vis des gens qui sont dans l'Église. Les deux points que j'ai relevés, c'est la perte de dignité. On le voit par rapport à Parce que le peuple juif qui est sorti d'Égypte, qui a été libéré, qui a été accompagné, où Dieu a pourvu à tout, c'était un peuple choisi, un peuple vraiment, c'était le peuple de Dieu, et Dieu était avec son peuple. Ce n'était pas n'importe quel peuple de la terre. Et néanmoins, les gens se sont révoltés contre Dieu. Et quelque part, ils ont perdu la place que Dieu leur avait donnée. Et c'était une belle place. C'est la même chose pour les anges, hein, même si ça s'appuie sur une source apocryphe. Ce que veut dire Jude, c'est que les anges, ils avaient un rôle à jouer, ils avaient une dignité, un certain rang. Mais non, ils ont préféré aller coucher avec les femmes des hommes et du coup perdre le rang qu'ils avaient et que Dieu leur avait donné. Et également, on peut imaginer que c'est identique pour les habitants de Sodome. Alors, je me suis aussi posé la question par rapport à nous. Alors, nous avons un rang qui n'est pas n'importe lequel. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers du royaume. On a plusieurs qualificatifs. Et c'est vrai que, est-ce que nous gardons notre dignité d'enfants de Dieu, de co-héritiers du royaume? Est-ce que nous ne sommes pas, dans nos comportements, nous ne remettons pas ça en cause? Et c'est une véritable question qu'on doit se poser individuellement face à différents comportements qu'on pourrait avoir individuellement. Mais voilà, nous ne sommes pas comme le peuple juif qui est sorti d'Égypte, qui était un peuple choisi, porté par Dieu, accompagné par Dieu, avec Dieu qui l'accompagnait, qui était visible par les autres nations. Il en est de même pour nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers du royaume. Un deuxième point sur lequel on peut se poser la question, j'ai appelé ça des actes contre nature. Donc on peut voir dans les trois rappels sur le jugement une notion de contre-naturel. Est-ce qu'il n'était pas contre-naturel pour les Israélites de se révolter contre celui qui leur avait tout donné, qui leur avait donné la liberté, qui leur donnait la nourriture, qui les accompagnait, qui les protégeait? Contre nature aussi par rapport aux anges qui ont voulu convoiter des femmes, donc qui ont été contre, on va dire, l'ordre créationnel, c'est-à-dire, les hommes sont avec les hommes restent au niveau des êtres humains, et il n'y a pas de mélange à avoir. Les anges n'avaient pas à aller vers les femmes des hommes. Et également aussi contre naturel pour ces mortels de Sodome qui ont voulu coucher avec des anges. Pareil, ils sont contre l'ordre créationnel. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu et ce n'est pas ce que Dieu a créé. Et là, je me suis dit, c'est vrai que nous sommes une nouvelle créature. Hein. J'ai mentionné 2 Corinthiens 5, 17 qui l'explique bien. Et qu'est-ce qui est contre nature à cette nouvelle nature? Et c'est une question aussi qu'il faut se poser par rapport à nos actes. Est-ce que nous ne faisons pas des choses contre nature? Et le mot est intéressant parce que souvent on a tendance à voir dans contre-nature des problèmes d'ordre sexuel, des choses qu'on a tendance un peu à évacuer en disant ça c'est pas pour nous. Mais en fait, comme on est une nouvelle créature, par exemple, ne pas obéir à Jésus est contre-nature. On a beaucoup d'éléments qui peuvent devenir contre-nature dans nos comportements. Alors ensuite, on arrive sur les versets 8 à 13 avec les caractéristiques des impies. Donc là, deux parties qu'on va regarder séparément. Donc la première, les versets 8 à 10, que je vais lire, et ensuite on lira dans un deuxième temps les versets 11 à 13. Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime !» Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ce qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne sert qu'à les corrompre. Donc si on regarde cette première partie, cette première séquence sur les caractéristiques des impies, donc on a une triade de reproches, hein, souille la chair, donc qui fait le lien avec le problème de Sodome et Gomorre du verset précédent. Ils méprisent l'autorité du Seigneur, ils injurient les gloires, où on peut voir justement les anges. Ensuite, il va donner un exemple, une contestation de Satan entre Satan et Dieu, et l'archange Michel qui reste à son rang, et qui ne rentre pas dans la contestation, mais qui reste à son rang. Alors cet exemple, vous ne trouverez pas de référence dans l'Ancien Testament qui en parle. Encore une fois, on est par rapport à une référence tirée de la tradition juive. Donc, on pense que c'est sorti de l'Assomption ou Ascension de Moïse, un livre apocryphe dont nous n'avons quasiment plus grand-chose. On a quelques fragments, mais on n'a pas le fragment qui parle de cette partie-là. Mais néanmoins, on a réussi à retrouver, par rapport aux citations de ce livre qui existait au premier temps du christianisme, un certain nombre d'infos qui nous permet de penser que c'était mentionné dans ce livre-là. Alors, quand on regarde un peu, j'ai trouvé deux interprétations de la tradition juive. La première, c'est que cette contestation entre Satan et Dieu, elle était basée sur le fait que Moïse avait fait un meurtre, le meurtre qui est rappelé en Exode 2:12, et donc Satan n'était pas d'accord pour dire que Moïse pouvait aller au Seigneur. Ça, c'est une interprétation. Et la deuxième, c'est une contestation dans le sens où Satan revendiquait le fait d'être responsable de tout ce qui était matériel, d'être le chef de tout ce qui est matériel, laissant le spirituel à Dieu. Et donc, le différent était sur le fait que, naturellement, Dieu n'est pas limité au spirituel, mais il englobe également le matériel. Donc, cette histoire, bon, c'est une jolie histoire, hein, elle n'est pas du tout étayée par la Bible, mais ce qu'elle montre, c'est que face à un conflit entre Satan et Dieu, l'archange Michel ne va pas prendre la place de Dieu. Il va laisser Dieu, finalement, agir. Et je pense que c'est intéressant par rapport à l'épître de Jude, de voir que Jude ne va pas demander aux gens de se mettre à la place de Dieu, de juger à la place de Dieu, mais de laisser Dieu faire son travail. Et c'est quelque chose, et l'opposé, c'est ce qu'il va reprocher justement à ces impies, c'est de parler sans rien comprendre, de parler de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Donc, ce qu'ils ignorent, ben, c'est les choses célestes, c'est les anges, c'est une partie de l'autorité de Dieu. Et il va également leur reprocher le fait que leur savoir n'est pas étayé, comme on l'a vu au début, par rapport à la foi transmise une fois pour toutes. Ce n'est pas une connaissance établie, mais plutôt quelque chose qui vient comme un instinct pour des animaux sans raison. Donc là, c'est pareil, si on imagine que les gens, alors on était face à une hérésie gnostique, ce qui n'est pas du tout sûr, des gens qui séparaient, on va dire, l'âme et la matière, le spirituel du charnel, là, voilà, il va leur dire, en fait, vous êtes moins que les animaux, quoi. Mais bon, je ne pense pas qu'on était vraiment dans une hérésie gnostique par rapport aux gens. Voilà. Si on continue, on a la deuxième partie des caractéristiques de ces impies. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire, ils se sont jetés. Et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont les écueils de vos agapes où, sans contrainte, ils festoient et se repaissent. Nuées sans eau emportées par les vents, arbres d'automne sans fruits, deux fois morts et déracinés. Vagues sauvages de la mer rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc encore une triade pour illustrer ce qui caractérise les impies. Donc on a qu'un, Julien nous en a parlé hier soir, hein, il nous a rappelé l'histoire de Caïn.
On ne t'entend plus, Sébastien.
Ah, moi je vous entends, mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'entendez là?
Oui, très bien.
Non, moi j'entends bien, ouais.
Non, ça coupe, c'est caché, c'est difficile de suivre tes phrases en entier depuis un petit moment.
C'est pareil pour tout le monde ou... C'est pareil pour d'autres ou pas?
On n'a pas de coupure. Hein.
Non, c'est très bon, moi j'entends très bien. Moi j'entends très bien.
Nous aussi.
Oui, nous aussi on entend bien.
Bon, Michel, peut-être il y a un problème de ton côté, regarde. Donc je vais continuer sur les caractéristiques des impies. Donc cette triade de référence avec un dont nous a rappelé. Dont Julien nous a rappelé l'histoire, hein, le problème de l'orgueil, le fait qu'il n'a pas voulu suivre ce que Dieu lui indiquait, la haine qui l'a amené à devenir un meurtrier, Le cas de Balaam. Alors, Balaam, c'est un peu plus compliqué. On a quelques informations dans le... alors j'avais noté dans Nombre 22, on nous dit Balaam, c'est un prophète qu'on est venu voir pour lui demander de prophétiser un peu contre Israël, mais qui va rester ferme et qui va dire ce que Dieu lui a demandé de dire. Il est néanmoins, c'est lui qui va enseigner à Balak comment séduire les Israélites afin qu'ils sacrifient aux idoles et se livrent à la débauche. Ça, on retrouve ça dans Apocalypse 2,14, dans la critique à une des églises. « Mais j'ai contre toi certains griefs, tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. » Donc voilà, ce qu'on reproche à Balaam, c'est le fait qu'il était intéressé, il avait touché de l'argent pour faire des prophéties un peu contre Israël. Il ne les a pas fait contre Israël, mais apparemment, il aurait gardé l'argent. Et il va pousser aussi les fils d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à la débauche. Corée, lui, ça va être plus simplement une contestation de l'autorité. Donc on le voit, le passage qui en parle, c'est Nombre 16, versets 1 à 5. Et donc, on a une contestation de l'autorité. Il va contester Moïse et Aaron. Et il va refuser cette autorité qui a été instaurée par Dieu. Donc là, on voit que les trois exemples nous donnent une liste de particularités, de caractéristiques qui sont celles des impies. Ensuite, il va donner un exemple de désordre. Il va parler des agapes, les repas. Donc, dans les premiers temps, simplement pour rappel, les premiers temps, les chrétiens faisaient ce qu'ils appelaient les agapes. Les agapes, c'était un repas dans lequel était remémoré le repas du Seigneur. Et donc, c'était important parce que il prenait la scène, hein, comme on dirait aujourd'hui, et il continuait par un repas. Et on a donc, on voit dans 1 Corinthiens déjà les problèmes qui pouvaient arriver avec la scène. Et on peut imaginer là que dans le cas de Jude, ce qu'il reproche, c'est que les gens ne faisaient plus que prendre un repas et passaient sur la première, alors je ne sais pas s'ils le faisaient au début, mais passaient sur cette partie de souvenir du sacrifice de Christ au niveau de la scène. Le fait de se souvenir au moment de la scène. Et ensuite, toute une liste de comportements qui vont en découler. Donc des nuées sans eau, donc un côté sec, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Donc, vraiment une absence de fruits, une absence de vie, quelque part. Des vagues sauvages rejetant l'écume de leur turpitude. Donc les gens, alors bon, c'est pas toujours simple à imaginer ce que veut dire cette phrase, mais on peut imaginer que les vagues, quand elles se jettent sur la plage, elles se retirent en laissant de l'écume un certain nombre de déchets. Donc voilà, c'est l'écume de leur turpitude. Et les astres errants, qui est peut-être une référence qu'on peut voir avec ces fameux anges qui sont enchaînés éternellement en attente du jugement dernier. Et on trouve dans le livre d'Enoch un peu cette comparaison avec des astres errants. Alors la question, y a-t-il des impies dans nos assemblées ? Alors, j'ai remis toutes les caractéristiques, jalousie, orgueil, haine, intéressement, infidélité spirituelle, débauche, contestation de l'autorité divine, mépris des choses spirituelles. Alors, naturellement, si on cherche quelqu'un qui a tout ça, on ne va pas le trouver, mais il suffit que quelqu'un ait une chose ou un des éléments et il peut rentrer très rapidement dans la case des impies. Les comportements sont aussi un autre moyen de les identifier. Ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils sont guidés par leurs instincts, secs, sans fruits, déracinés, deux fois morts, mauvais fruits, vantardise, et ils sont errants. Donc c'est vrai que la question d'imaginer qu'il y ait des gens impies dans nos églises n'est pas simple. Et souvent, on a tendance à ne pas imaginer que ça puisse nous concerner. Néanmoins, quand on regarde ces caractéristiques, je pense qu'on peut tous, à un moment donné, retrouver des choses qui vont nous concerner. Alors, naturellement, on va peut-être plus voir notre voisin dans l'église que nous-mêmes, mais on peut être concerné par ces caractéristiques. et on peut aller jusqu'à certains de ces comportements. Donc voilà un peu comment on peut utiliser ce passage pour se poser la question par rapport aux impies. Alors une troisième partie par rapport aux impies, c'est leur jugement. Et donc là, on a ce passage, les versets 14 à 16. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence et qui flattent les gens par intérêt. Donc voilà le verset 14 avec cette fameuse mention d'Enoch, donc on rattache au livre d'Enoch. On imagine que c'est une référence au livre d'Enoch. Donc je peux vous lire ce qu'on a dans l'Enoch éthiopien, légèrement différent, mais à peu près ça. Et voici, il vient avec des myriades de saints pour exercer sur eux le jugement, et il anéantira les impies, et il châtiera tout ce qui est cher pour tout ce qu'on fait et commis contre lui les pécheurs et les impies. Donc c'est à peu près la même chose. On voit qu'il a rajouté le Seigneur. Bon, il a un peu contextualisé peut-être la prophétie d'Enoch, à moins qu'il l'ait pris plus dans une tradition autre. Et il va aussi parler plus de la partie aussi des propos, les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Donc vous voyez le verset 15, quand on regarde le nombre de fois qu'on a le mot impie, on a impie, acte d'impiété, les pécheurs impies. Donc vraiment, il y a cette notion de jugement qui va avoir lieu. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence et qui flattent les gens par intérêt. Alors peut-être revenons sur la notion d'impie, parce que je n'en ai pas encore vraiment parlé. Donc il y a un mot grec derrière, le mot sebes, qui n'est pas très simple. Il se traduit bien par impie en français. Je pense qu'on a une traduction assez fidèle, mais c'est des gens qui ne sont pas tournés vers Dieu, qui n'honorent pas Dieu, voire qui le condamnent, qui ne sont pas intéressés par Dieu. Et la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir des impies dans une église? Et voilà, parce que c'est assez évident de voir des impies en dehors de l'église, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des impies dans l'église? Et en regardant, par exemple, d'autres versets qui parlent des impies, par exemple, 1 Timothée 1,9, que je cite, « Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. » Donc là, on a toute une liste et on voit bien que les impies, ce ne sont pas les pécheurs, ce ne sont pas les irreligieux, ce ne sont pas les profanes. Ce sont des gens qui, pour moi, qui sont en partie qui vont être en partie dans l'Église et qui, peut-être, ont un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Alors, quand je dis ça, j'imagine que tout le monde est à peu près dans la même situation. On a tous un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Mais le problème des impies, c'est peut-être qu'ils ont essayé de prendre le pied qu'ils avaient dans l'Église et de le ramener dans le monde, alors que en obéissance à Christ et dans la sanctification, notre but, c'est plutôt de prendre le pied qui est dans le monde et de le ramener dans l'Église. Et je pense que les impies, pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Je pense que la définition la plus précise, c'est en regardant les différents versets qu'on a dans Jude. Ce sont des gens qui, au travers de leurs actes et de leurs paroles, ont été dans l'Église, ont suivi l'Église et peut-être, au travers des choix ou des mentalités ou de ce qu'ils ont pensé, se sont peut-être petit à petit éloignés et ont commencé à trouver ça normal. Voilà comment je vois à peu près les impies et donc le jugement qui les attend en fait derrière. Donc voilà, je n'avais pas passé le slide, mais voilà à peu près les différentes formes de ce que je voulais vous partager. Ensuite, on quitte les caractéristiques des impies et on va parler de l'exhortation aux fidèles. Alors, ça va répondre au verset 3, quand Jude disait « Je me suis senti obligé de le faire avant de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et donc là, il va s'adresser aux gens qui ne sont pas les impies et qui vont pouvoir combattre cela. Donc là, on a les versets 17 à 23 que je vais vous lire. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent, sauvez-les en les arrachant du feu, ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va, s'appuyer sur l'enseignement reçu une fois pour toutes, sur l'enseignement des apôtres. Souvenez-vous des prédictions des apôtres. Il va s'appuyer naturellement, il a annoncé au verset 3 la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il va parler du souvenir, souvenez-vous. Et c'est intéressant parce que le souvenir, il en a parlé également au travers des citations de l'Ancien Testament. Donc, tout ce qui a déjà été fait, ce qui a été écrit, il faut s'en souvenir. Il faut également après s'appuyer ce qui a été transmis et s'appuyer sur cette foi transmise une fois pour toutes. Ensuite, il va parler de la fin des temps. Il va faire cette référence donc en disant ben voilà, ce qu'ils vous ont dit en plus, ça se vérifie, on approche de la fin des temps. Donc, comme une confirmation du fait que voilà, ce qu'ont dit les apôtres était tout à fait valable. Et ensuite, il va proposer quatre actions. Donc, une première qui est « Souvenez-vous de l'enseignement ». Et ensuite, « Édifiez-vous sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit et maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Donc, c'est intéressant de voir comment il voit l'édification, comment il voit la construction, comment les gens doivent réagir face à l'impiété. C'est par rapport à un enseignement, se conforter par rapport à ce qu'ils ont reçu, construire sur la très sainte foi, cette foi qui a été transmise, prier, et maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et c'est peut-être ça le plus important, et c'est pour moi ce qui justifie les versets 22 et 23, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, comment? En essayant d'aider les impies. Donc là, on arrive aux versets 22 et 23. Alors le verset 22 et 23, je vous l'ai dit en introduction, c'est peut-être les versets les plus compliqués parce qu'il y a beaucoup de manuscrits grecs différents sur ces versets 22 et 23. Et donc, bon, sans passer trop longtemps là-dessus, mais simplement le mentionner, trois exemples de traduction. Il y en a plus, hein, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Mais pour montrer qu'on peut être confronté à des choses assez différentes si on ne fait pas garde. Si on n'y prend pas garde. Et en tout cas, moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, la première fois que j'avais étudié Jude, j'avais des versions différentes et je me disais, mais comment on peut, avec un même texte grec, arriver à des choses aussi différentes? Et ça reste pour moi un des cas, peut-être un des cas les plus difficiles et compliqués dans le Nouveau Testament. Donc les versets 22 et 23, je vais vous lire dans les trois versions. Donc, dans la version d'Arbi, et les uns qui contestent, reprenez-les, les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. La colombe, que j'ai utilisée en référence pour la plupart des versets mentionnés dans cette présentation, ayez pitié des uns de ceux qui doutent, sauvez-les en les arrachant du feu, ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et une troisième version, la Nouvelle Bible Second. Ayez compassion de ceux qui hésitent, d'autres sauvez-les en les arrachant du feu. Pour d'autres enfin, ayez une compassion mêlée de crainte, détestant jusqu'à la tunique tachée par la chair. Donc, en fait, les différences ne viennent pas de la traduction d'un même texte, mais viennent plutôt du choix par différentes Bibles, hein, par les Bibles, de différents manuscrits grecs, qui ont amené des traductions donc différentes. Alors, on a deux grandes classes de traductions. qu'on va, la première qu'on retrouve dans ce cas précis avec Darby et la colombe, où on a deux catégories de personnes. On a les uns, alors chez, dans la version Darby, les uns qui contestent, reprenez-les. Et dans la version à la colombe, ayez pitié des uns de ceux qui doutent, sauvez-les en les arrachant du feu. Donc là, on a un premier cas. Et après, on a le deuxième, les autres, alors dans la version Darby, les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant du feu. Haïssant sont même le vêtement souillé par la chair, dans la colombe. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc là, on a deux catégories de personnes. On a déjà des petites différences, parce que voilà, il y a même en ayant deux catégories de personnes, il y a quand même aussi des variations dans le texte, notamment entre reprenez-les ou ayez pitié des uns, ayez pitié ou ayez compassion, c'est la même chose. Donc on voit que voilà, on a deux catégories, mais pour certains c'est ayez pitié, pour d'autres c'est reprenez-les. Il y a le sauvez-les en les arrachant du feu qui n'est pas au même endroit dans les deux cas aussi. Et dans la Nouvelle Bible Second, en fait, on a trois catégories de personnes. Ayez compassion de ceux qui hésitent. D'autres, sauvez-les en les arrachant du feu. Pour d'autres, enfin, ayez une compassion mêlée de crainte, détestant jusqu'à la tunique tachée par la chair. Alors, par exemple, ceux qui, les adeptes de la version longue avec trois caractéristiques, vont s'appuyer sur justement cette notion de triade en disant, bah, comme tout marche par trois dans l'épître de Jude, c'est normal qu'il y ait trois types de personnes. Bon, néanmoins, on a beaucoup de mal à comprendre les différences entre les deux premiers, surtout que d'autres, sauvez-les en les arrachant du feu, on ne sait même pas qu'est-ce qui les caractérise. Donc, voilà, vous allez trouver, si vous regardez ces versets, beaucoup de variétés de traductions. Moi, personnellement, j'étais plutôt pour une version avec deux types, qui est quand même un peu plus simple, et j'étais assez proche, finalement, de la version Darby, parce que j'aime bien le fait que suite au verset qui nous exhorte à nous maintenir dans l'amour, on puisse aider les premiers, ceux qui doutent ou qui contestent, mais voilà, ceux-là, on peut les reprendre, on peut les aider, on peut les amener à revenir, alors que la deuxième partie, le deuxième cas, ou le troisième cas dans la Nouvelle Bible Seconde concerne des gens qui, voilà, on n'a plus rien d'autre à faire que simplement avoir pitié et s'en éloigner et ne même pas les toucher tellement leur péché est contaminant quelque part. Donc voilà, je voulais simplement faire un focus sur ces versets-là parce que personnellement, ils m'ont un peu traumatisé il y a quelques années où je ne comprenais plus rien du tout et j'avais dû un peu faire ce travail de recherche des différentes variantes du manuscrit original pour comprendre toutes ces variétés. Donc, ça veut dire également qu'on ne peut pas non plus asseoir une interprétation très forte sur ces deux versets-là, vu les contestations qu'il y a derrière. On arrive ensuite à la doxologie finale. Donc, une doxologie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formule de louange qu'on peut employer à la fin de prières dans la liturgie. Et c'est, en général, on en a toujours une à la fin de, comment dire, à la fin des épîtres. Et donc, ça loue, c'est une louange, c'est une formule de louange pour louer Dieu. Alors, dans notre cas, elle est intéressante par rapport à ce qui a été justement mentionné, parce qu'il va rappeler face à des gens, face à des impies, et face à des gens qui l'exhortent également, voilà, que Dieu nous préserve de toute chute, et qu'il veut que nous paraissions devant lui irréprochables. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il termine en disant, mais voilà, vous avez tous les moyens de ne pas chuter. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour paraître devant lui, devant sa gloire. Et il termine également le verset 25 en rappelant justement l'autorité de Christ. Il rappelle, voilà, le Sauveur, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il va également parler, alors avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles, ce qu'il a aussi utilisé dans son épître, quand il a fait les références, on va dire, au passé, à l'Ancien Testament, quand il va parler des problèmes présents, et quand il va également annoncer le jugement. Alors, on arrive à la fin. Quels enseignements pouvons-nous tirer? Alors, pour moi, J'en parlais rapidement avec Guillaume à midi, là, juste au moment du repas. Pour moi, la grande nouveauté par rapport à Jude, ça a été de me convaincre et de prendre pour moi l'accusation de Jude. Parce que très facilement et souvent dans mes lectures passées, pour moi, les impies, c'était des gens extérieurs à l'Église. C'était des gens, c'était pas dans nos Églises. Et là, je me suis dit, non, non, Jude, il s'adresse à nous. Quand il faut imaginer que quand les gens lisaient cette épître de Jude dans les assemblées à laquelle elle était destinée, il y avait des impies et des bien-aimés qui entendaient le message. Donc, c'est vrai que les gens devaient se dire, ah oui, c'est lui qui n'est pas bien, etc. Donc, chacun regardait peut-être son voisin en imaginant que c'était son voisin. Mais voilà, je pense que le but de l'épître, c'est aussi de nous sensibiliser par rapport à des caractéristiques, des comportements, et de nous dire, voilà, est-ce que nous ne sommes pas en train de devenir un impie ? Et voilà, quand je disais que pour moi l'impie, c'était quelqu'un qui avait un pied de chaque côté, comme un chrétien, mais simplement que l'impie, quelque part, il est en train de mettre le... Il est en train de favoriser le pied qui est dans le monde, et il est en train d'essayer de le justifier. Et il va peut-être trouver des interprétations bibliques, il va peut-être négliger certaines parties, il va peut-être cacher d'autres parties. Et petit à petit, il va peut-être arriver à ne plus reconnaître l'autorité de Dieu. Il va peut-être murmurer, critiquer. Il va peut-être, petit à petit, s'éloigner franchement de Dieu. Et ce matin, quand Yvan parlait d'Abraham, ou du moins des différents personnages, à un moment donné, il a mentionné le jeune homme riche. Je me suis posé la question de est-ce que le jeune homme riche, finalement, il ne risquait pas de devenir un impie s'il continuait dans cette voie-là ? Est-ce que devenir un impie, c'est une forme de progression ? C'est le fait de s'éloigner petit à petit. Et donc, voilà, de quel côté sommes-nous ? Est-ce que nous avons des choses pas réglées qui, peut-être, un jour ou l'autre, vont nous amener à nous éloigner de Dieu ? Et ça, on en voit. Pareil, quand j'étudiais Jude, en essayant d'imaginer les choses qu'on pouvait se reprocher, je me souviens qu'il y a quelques années, bon, c'est pas très très vieux, on est en relation avec une église allemande, et à un moment donné, il y a eu un problème, parce qu'en fait, le pasteur était divorcé et couchait avec la sœur d'un ancien. Bon. C'était un problème qui, on nous en a parlé discrètement, parce que c'était pas quelque chose d'étalé sur la voie publique. Donc voilà, nous on voyait le problème, oui c'est quand même pas normal, il y a des choses à mettre en ordre. Et ce qui nous avait surpris avec Séverine, c'est que quand on parlait avec les gens de l'église, on était surpris des réactions. Il y en avait qui trouvaient ça normal, il y en avait qui voyaient, voilà, ils voyaient pas le problème, pourquoi le pasteur en question lui-même non plus ne voyait pas le problème. Et pour moi c'était un peu ça, cette démarche de devenir impie, c'est-à-dire qu'on se laisse prendre dans quelque chose qu'on va normaliser et qu'on va petit à petit rendre, qu'on va prendre comme une norme et qui va nous éloigner de Dieu. Et je pense qu'on peut, dans ce cas-là, devenir impie. C'est-à-dire quelqu'un dans l'Église qui va peut-être venir par habitude ou parce qu'il y a un intérêt ou parce qu'il ne veut pas montrer qu'il a tel ou tel problème. Mais voilà, je reste convaincu que l'épître de Jude, elle n'est pas que pour les autres, elle est aussi pour nous. Pour nous sensibiliser par rapport à ce qui pourrait arriver si on laisse des zones d'ombre dans nos vies et si on ne prend pas garde, et si au lieu de les régler, on préfère adapter l'enseignement, la parole de Dieu, l'interpréter pour justifier nos propres égarements. La deuxième partie donc, dont on a parlé, alors Romaric en a parlé, je ne sais plus qui d'autre en a reparlé, quelqu'un en a reparlé, peut-être Julien. C'est le fait que nous rendrons des comptes. Donc, je ne pense pas que l'épître de Jude remette en question le salut, mais dit simplement, voilà, à un moment donné, on va passer devant Dieu et tout sera mis à plat. Et tout ce qu'on a fait de pas bien, ça sera visible. Donc là, j'ai repris les références qu'avait mentionné Romaric. Et donc, c'est le fait que... Voilà, devant Dieu, d'accord, on aura sûrement demandé pardon pour plein de choses, mais voilà, les choses, on les aura faites et elles seront devant nous. Hein, même si on a fait 1 milliard de péchés et qu'on a demandé 1 milliard de fois pardon, on aura ce 1 milliard de péchés devant nous. Peut-être même, alors ça, c'est, je, c'est une crainte peut-être plus personnelle, mais c'est d'imaginer que tout sera devant Dieu, mais devant tout le monde, devant tous les gens avec qui nous serons avec Dieu. Et c'est important parce que, voilà, c'est pas parce qu'on fait une chose, qu'on demande pardon, même sincèrement, hein, je ne remets pas du tout en question ça, que ça ne sera pas visible. Et il faut avoir l'idée quand même que les choses seront mises à plat, seront visibles quand nous serons avec Dieu. Un troisième point, c'est le jugement est à Dieu. Alors c'est vrai que j'ai peut-être mis beaucoup d'importance dans cet exemple de l'archange Michel qui ne rentre pas dans le conflit entre Satan et Dieu, mais je pense que dans cet épître, Jude ne nous demande pas de juger les autres, ne nous demande pas de faire le jugement de Dieu. Il nous demande plutôt « maintenez-vous dans l'amour ». Il demande aux gens de se fortifier, donc de construire sur « édifiez-vous, priez ». Souvenez-vous, donc une notion plutôt de consolidation, et maintenez-vous dans l'amour. C'est pour ça que je faisais le lien avec les versets 22 et 23. Le maintenez-vous dans l'amour, il est là aussi pour accompagner ceux qui sont en train de s'égarer. Et un dernier point que j'ai particulièrement apprécié, c'est la recette de la vie chrétienne qu'on a. Souvenez-vous, édifiez-vous, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voilà, donc on arrive à la conclusion. Donc, en termes de conclusion, voilà, c'est une épître assez courte, 25 versets, très bien construite. J'ai été surpris de voir tous les parallèles, tous les renvois, toutes les, voilà, les constructions avec les triades. C'est quand même très très bien, très bien organisé, très clair, très net. Alors naturellement, c'est vrai qu'il y a quelques éléments, le verset 22-23, qui ne sont pas hyper clairs. Je trouve qu'elle est d'actualité parce qu'elle s'adressait à une église qui était assez aboutie, je pense, pas une église dans un temps chrétien qui se cherchait ou qui se construisait, mais plutôt une église qui avait déjà peut-être 10, 20, 30 ans, des écrits, qui avait aussi un enseignement, et donc qui est plus proche de ce que l'on connaît aujourd'hui maintenant, c'est-à-dire voilà, une église... avec une certaine assise. Donc ça, c'est un point que j'ai assez apprécié, et je pense que c'est ça qui la rend d'actualité. Peut-être que le fait de ne pas avoir beaucoup d'éléments de contexte aussi est un élément qui nous donne un côté universel. On n'est pas sûr de qui l'a écrit, on n'est pas sûr de à qui elle a été écrite, et on n'est pas sûr de où elle a été écrite. Donc on ne peut pas la relativiser par rapport à un contexte. Voilà, et cette notion d'un pic, pour moi, reste quelque chose d'une découverte que j'ai faite pendant cette étude, parce que pour moi, j'avais trop souvent tendance à soit la rapprocher de faux docteurs, c'est-à-dire des gens qui vont théoriser une interprétation contre l'Évangile, ou alors des gens complètement en dehors de l'Église. Et voilà, tout le travail pour moi a été de m'amener à comprendre que l'impie, il était dans l'Église et je pouvais un jour le devenir, ou j'espère que je ne le deviendrai pas, mais ce n'est pas un être complètement à côté qu'on ne voit que quand on sort de l'Église. Voilà, je vous remercie et voilà, je peux répondre à vos questions si vous en avez maintenant.
Merci Sébastien. Alors pour l'instant, il y a une remarque de Daniel qui souligne la crainte ou le respect, montre certainement un moteur de piété, un moteur de relation à Dieu, un moteur de mode de relation, avoir la crainte de Dieu, en contraste avec la crainte des impies, c'est-à-dire la méfiance ou la réserve. Hein, il dit, c'est-à-dire finalement que tout ce qu'ils entreprennent les fasse aboutir à quelque chose qui ne fonctionne pas bien.
Alors, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, il y avait dans les conférences de cette semaine, ce qui est intéressant, c'était de voir toutes celles qui parlaient du monde. Je pense notamment à Pierre-Henri lundi soir, hein, qui nous parlait du matérialisme, de l'hédonisme, etc. On en a eu d'autres qui nous parlaient plutôt des bons exemples, hein, d'Abraham, demain Abraham, lundi matin avec Jean-Louis, on a eu ce matin aussi avec Yvan, donc les bons exemples qui montrent ce qu'il faut faire. Je pense aussi à la tienne, Guillaume, où tu montres une personne qui va progresser en prenant, en tirant des leçons de ses erreurs hein, dans le travail que le chrétien doit faire jour après jour. Et c'est vrai que là, dans cette épître, on voit vraiment l'opposition entre voilà, ceux qui font l'effort, ceux qui veulent rester avec Dieu, qui vont faire un travail, et tout le monde à côté, tout ce qui peut arriver et tout ce qui peut nous attirer en dehors. Quand Pierre-Henri parlait, par exemple, de l'hédonisme, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, il dit que l'hédonisme, c'est de ne pas passer des heures dans un jacuzzi, etc. Je sais que moi, j'aime bien le jacuzzi, hein, donc je me sentais un peu hédoniste quand je lisais ce passage-là. Mais c'est vrai que la question, c'est est-ce que je le laisse à sa place ? Est-ce que je suis capable de borner ses plaisirs et de ne pas justifier par la Bible, par exemple, que voilà, c'est normal, il faut que j'en profite, etc. Et petit à petit, peut-être m'éloigner de Dieu.
Michel Carl, tu as laissé ton micro ouvert, c'est pour nous dire quelque chose ? Si, il est là. Non ? Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai traduit l'épître de Jude. Je peux vous passer en sous Word hein, ma traduction avec des notes de traduction. Ce que je peux peut-être, c'est vous les faire passer. Tout de suite, là, faire passer le fichier. Vous savez, avec Zoom, là, on peut le faire passer, si vous voulez. Ça permet de peut-être les notes de traduction permettent d'être plus sensible à certaines choses. Alors, je suis sûr que vous avez des questions ou des remarques à faire sur Jude. Hein, comme je vous disais dans la discussion, quand on lit une lettre comme celle-là, il y a certainement des mots, des versets qu'on ne comprend pas bien. Et c'est le moment, ce serait dommage que demain, vous vous disiez, tiens, j'aurais dû parler de ça. Alors, en attendant que vos remarques se fassent, peut-être voilà des choses que j'ai eues en moi-même en lisant Jude et même en écoutant Sébastien, c'est que c'est assez étonnant de voir autant de descriptions faites sur des gens qui font mal. Comme si Dieu, comment dire, on pourrait dire... que plus on parle du mal, et moins on épargne les gens, en fait. Et je crois justement que c'est pas ça. Dieu veut que les choses soient claires, et peut-être que nous comprenions bien ce que c'est que le mal pour pouvoir nous en soustraire plus facilement. Est-ce que je ne creuse pas beaucoup plus cette idée, mais comment réagissez-vous à cette idée ?
Oui, il me semble qu'il y a à la fois des précisions concernant la nature du mal, finalement, puisque on explique en détail les choses, et puis également sur les conséquences que ça, y compris des conséquences spirituel quand il dit méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Donc ça fait, enfin, ça témoigne d'un discernement particulier que Jude a eu par rapport à ça. Et les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a eu ce discernement par rapport à certainement il l'a eu par rapport à une population précise de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le disait Sébastien, comme ça n'a pas été contextualisé et adressé à une église en particulier, c'est ça qui est intéressant et qui en même temps est troublant. C'est-à-dire que s'il y avait eu adresse à un groupe bien particulier, on pourrait se dire, bon, là, il fait référence à quelque chose que, de toute évidence, les gens connaissent, un peu comme dans les Corinthiens, il y avait des gens en arrière-plan et que les Corinthiens connaissaient. Là, ce n'est pas le cas. Enfin, ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ, comme Sébastien a dit, c'est très large. Donc, c'est intéressant qu'il y ait ce discernement particulier que Jude a eu de se rendre compte de ce qu'il y avait derrière, finalement, l'impiété, et de le raccorder avec toute l'histoire dans l'Ancien Testament, Balaam, Cain, Corée. Enfin, je trouve que c'est vraiment un discernement précieux.
Alors c'est vrai que pour moi, cette description très, très complète et très détaillée des caractéristiques, ça paraît beaucoup, mais comme pour moi, l'idée qu'avait Jude, c'était vraiment de chercher à convaincre les gens qui allaient écouter cette épître, il fallait lister le maximum de caractéristiques pour peut-être que les gens se retrouvent dans l'une ou dans l'autre. C'est peut-être pour ça que, moi, c'est comme ça que je comprendrais. C'est ceux qui vivent, c'est les impies, je pense. C'est vraiment que les gens se reconnaissent impies et quelque part qu'ils se sentent fortement critiqués, fortement remis en question avec des mots forts, hein, quand il affirme, voilà, il méprise l'autorité, il méprise les choses célestes. Voilà, les gens, ils disent, ah oui, tiens, si moi je fais ça, peut-être ça veut dire ça. Et voilà, c'est peut-être pour moi ça l'explication. Il y a beaucoup de détails pour essayer de ratisser large et que le maximum de gens se sentent peut-être concernés.
Tu as raison, Sébastien, d'en faire une application pratique pour nous. Mais Jude dit, verset 3, « J'ai été conduit à vous encourager à combattre pour la foi, parce que certains hommes, verset 4, se sont introduits parmi nous. » Donc, quand même, l'objectif explicite de Jude, c'est qu'on sache se positionner par rapport à ces impies, c'est pas de nous convaincre d'impiété.
Non, non, on est d'accord.
Finalement, résister. Et quelque part, comme tu l'as dit, quelle doit être la discipline de l'Église, hein, quelle doit être la réaction individuelle, collective, etc.
Oui, mais ben, ce que je voulais dire, c'est que dans beaucoup d'épîtres, et notamment Paul, souvent fait la même chose, c'est-à-dire que quand il écrit, les gens qui vont le recevoir, il y a les gens, on va dire, qui ne sont pas concernés par les critiques et ceux qui sont concernés. Et toute la difficulté dans l'exercice de l'épître qu'a rédigé l'auteur, c'est d'arriver à toucher les deux populations, mais vraiment, et pas que tout le monde se sente du bon côté en disant la critique, c'est pas pour moi. Mais c'est, pour moi, c'est toujours un peu la difficulté. Et donc là, je pense que Jude, il a particulièrement cette chose-là. Mais comme tu dis, le but, c'est que chacun arrive à se positionner, impie ou pas impie, mais il faut arriver à parler aux gens qui sont impies, parce qu'eux, ils vont peut-être tout de suite dégager ça en disant « Non, ça ne me concerne pas. Moi, je suis quelqu'un de bien, ma foi se construit sur la très sainte foi, transmise une fois pour toutes, etc. » Mais voilà, c'est une difficulté.
Isabelle me faisait la remarque suivante, hein, Isabelle, ma femme, de dire que l'impiété, c'est quand même une non-relation volontaire régulière avec Dieu. L'impiété, c'est-à-dire qu'on est tous capables d'impiété dans la journée, et on est tous quelque part impies à un moment ou à un autre. Mais l'impie dont il est question, par exemple ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle et dans l'homosexualité contre nature, ou bien ceux qui font du spiritisme, hein, avec le rapport aux esprits, sont des gens qui cultivent l'impiété. Et donc, il faudrait peut-être pas faire trop peur à ceux qui nous écoutent en disant, mais est-ce que ce serait pas... Quelque part, quelqu'un qui dit, est-ce que je suis impie? C'est quelqu'un qui est dans la piété. L'impie, c'est quelqu'un qui, par définition, ne se remet pas en question. Tu crois pas ?
Oui, ou qui est éloigné de Dieu, qui ne le recherche pas, qui n'a pas d'intérêt pour la foi.
Alors, quand j'ai lu, au début, il y avait des commentaires qui ne parlent pas d'impie, qui parlent de faux docteur, hein, comme on peut le retrouver dans 2 Pierre. Ça ne me plaisait pas parce que c'est vraiment le terme impie qui est utilisé. Et c'est vrai que c'était ma difficulté parce qu'au début, quand je me disais, il n'y a pas d'impie dans l'Église au sens où tu l'entends, où, c'est-à-dire régulièrement et volontairement éloigné. Ça paraissait aberrant d'imaginer que ces gens-là soient dans l'Église. Et donc, je me suis plutôt imaginé soit des gens, comme tu le disais, qui par moments vont l'être, ou qui petit à petit le deviennent de plus en plus. Et peut-être que Jude, en les traitant d'impie, quelque part, c'est un moyen de les faire réagir. C'est pas simplement, c'est pas le, peut-être pas le vrai mot qui les concerne, qui les caractérise, mais un moyen de le. Parce qu'il est très provocateur dans son épître. Hein, il affirme des choses qui sont très dures. Donc celui qui se sent concerné, normalement, il ne doit pas bien dormir la nuit suivante. Quoi. Et voilà, peut-être que le mot impie est peut-être aussi forcé pour obliger les gens à se positionner, à se rendre compte voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Je pense que dans la continuité de notre réflexion, dans la discipline de l'Église, il faut faire la différence entre le méchant et le repentant. Le méchant, c'est celui qui ne veut pas ni se remettre en question, ni s'ouvrir à la pensée de Dieu dans la mesure où lui, il fait le contraire. Le méchant, c'est quelqu'un qui persévère dans une pensée qui est ouvertement contre celle exprimée de Dieu.
C'est ce qu'on peut voir dans les versets 22 et 23, quelque part.
Oui.
Peut-être ces deux niveaux.
Je pense quand même que, par exemple, il y a une trentaine d'années, quand on a commencé à avoir affaire à des gens possédés, je me suis dit, est-ce que je serais possédé, moi ? Et de la même manière, ça pourrait troubler quelqu'un en disant on risque tous d'être impies sans s'en rendre compte. Je pense que dès l'instant où en nous-mêmes on a cette volonté d'être devant Dieu, d'être clair avec Dieu, alors on met en œuvre la piété. Et la piété, c'est le caractère de notre âme, c'est-à-dire de notre comportement intérieur, de se tourner vers Dieu. Si on a cette perspective devant nous, alors je crois que raisonnablement, il ne faut pas qu'on s'appelle impie. Tu es d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait. Non, mais quand je dis est-ce que nous sommes des impies, c'est une question qu'on doit se poser. Mais la réponse, en effet, c'est si on se la pose déjà, c'est que quelque part, on ne l'est pas.
Oui.
Mais c'est un moyen de nous faire réagir par rapport à nos comportements, par rapport à certaines de nos pratiques. Pour ne pas dériver, pour ne pas peut-être un jour devenir vraiment quelqu'un d'impie. Mais oui, je suis d'accord avec ça.
Je ne sais pas, vous m'entendez ?
Très bien.
Oui. Très bien, oui.
Oui. J'ai été amené à étudier cette épître, à la présenter plusieurs fois, suite à l'interrogation d'un frère de Toulon, où nous sommes en ce moment, qui avait une conscience, on va dire, délicate et qui pensait qu'elle montrait clairement la possibilité de la perte du salut. Donc, j'ai été amené dans ce cadre, et puis ailleurs, à sonder cette épître. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a deux groupes de personnes bien identifiées. Il y a les bien-aimés, et les autres, ils sont toujours appelés ceux-ci. Et donc, dès le début, on voit qu'ils se sont glissés en venant de l'intérieur, d'une façon pas claire, dans l'Église, qui sont intéressés par les agapes et qui ne sont pas convertis pour moi. Hein. Donc, je vais plutôt dans le sens que ce n'est pas de faire une introspection pour savoir si on est des impies. Moi, je ne suis pas interpellé comme cela, mais par le fait qu'effectivement, il peut y avoir dans l'Église des personnes non converties. Il y en a toujours eu, il y en aura probablement, et nous devons veiller. C'est pour cela que, bon, vous connaissez la position des assemblées de frères quant à la réception, bien à la table du Seigneur, comme on dit, au repas du Seigneur. Bien que nous soyons élargis, globalement, nous regardons quand même, nous demandons un témoignage suffisant pour recevoir, et non pas le libre service. Alors, bon, voilà, tout ça sont les positions des assemblées de frères. Quant à la question de la perte du salut, je trouve qu'elle est très, très, très importante. Très, très, très importante. C'est une doctrine qui est une doctrine de base, on va dire, des milieux pentecôt-charismatiques. Il faut le savoir, c'est une doctrine officielle. Le salut peut se perdre, toujours. C'est une doctrine de base. Ils ne savent pas grand-chose, mais ça, ils le savent. Et on insiste très lourdement là-dessus. J'ai eu beaucoup à faire à des pasteurs. Voilà. Moi, je suis exactement de l'autre côté. Je suis pour la pérennité du salut des personnes, bien sûr, nées de nouveau. Hein, on est bien d'accord. Pas des personnes qui participent à une église. Des personnes nées de nouveau. Il suffit des fois de réfléchir à une chose. Si la vie éternelle que l'on reçoit, celui qui croit en moi à la vie éternelle, dit Jésus, deux choses l'une, soit c'est un mensonge, soit c'est la vérité. Si pour une raison quelconque, la vie éternelle peut se perdre, ça veut simplement dire qu'elle n'a jamais été éternelle, parce qu'une vie éternelle qui s'arrête n'est pas une vie éternelle. Donc, à ce moment-là, il faut rectifier notre manière de voir. Christ, par son œuvre, ne nous donne pas la vie éternelle, mais une possibilité de vie éternelle que par notre fidélité, par nos œuvres et notre persévérance, nous allons nous rendre éternelle. Donc, c'est pas mal de donner une possibilité de vie. Mais celui qui arrive là-haut en levant les bras, c'est nous, en disant « si j'y suis arrivé, c'est quand même la force de mes poignets ». Donc c'est quelque chose qui me semble très très important. Si quelqu'un me dit « oui, mais alors je peux faire n'importe quoi et je ne serai jamais perdu », j'ai dit « si tu penses ça, c'est que tu n'es pas converti, ça c'est sûr ». Parce que la caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est un mouton, si on reprend les images de Pierre, qui tombe dans le bourbier, mais ce n'est pas un cochon lavé qui retourne au bourbier. Donc c'est très différent. Un agneau qui tombe dans un bourbier ne sera pas à l'aise, tandis qu'un cochon lavé qui retourne au bourbier, il fait la planche, hein, il se régale, hein, il se vautre de tous les côtés. Tu vois. Donc pour moi, ça c'est quand même assez important. J'ai été très marqué, et vous pouvez le vérifier vous-même, par ces deux catégories qui ne sont jamais mélangées. Bien-aimé, répété, je crois, trois fois, et ceci. Voilà, moi, c'est ma manière de comprendre l'épître de Jude, qui, quand même, bien évidemment, nous interpelle, parce que parmi les fidèles, ben, il y a des gens qui ne sont pas fidèles, qui sont des impies. Là, je dois me dire, je ne me pose pas cette question. Voilà, merci.
Et en continuant cette pensée de Pierre, je dirais, quelle est la norme dans les églises? Est-ce que c'est qu'il n'y ait jamais d'impie ou est-ce qu'il y en ait tout le temps? Ou est-ce que c'est entre les deux? Moi, il me semble que, je pose aussi une question différente, quelle est notre église idéale? Comment est-ce qu'on voudrait que l'église soit, en fait? Comment est-ce qu'on voudrait que soient les membres de l'Église? Je pense que si, de manière normale, on parle avec des gens avec qui on est en relation et que ces gens-là arrivent dans le lieu de l'Église, alors c'est tout à fait normal qu'on ait ce genre de personnes qui sont nouvellement conduits à la foi et qui... et puis qui entraînent d'autres, etc., et qu'on ait des problèmes. Il me semble que c'est un peu normal qu'on ait des difficultés dans l'Église avec des gens comme ça, avec des gens qui se comportent mal et des gens qui enseignent mal, et que quelque part, quand dans l'Église tout va bien, tout le monde se comporte bien, j'ai un peu envie de dire que ça colle pas avec la réalité, en fait, des lettres qui nous sont transmises. Dans les Corinthiens, il y a plein de problèmes. Avec Pierre, il y a plein de problèmes. Avec Jean, il y a des gens qui n'aiment pas leurs frères, etc. C'est pas que je souhaite qu'il y ait ce genre de personnes dans l'Église, mais je pense que réfléchissons peut-être à notre regard sur eux. Si nous avons des gens qui sont typiquement comme ça dans les églises, peut-être que nous avons aussi cette responsabilité de leur parler et de les aider. Hein, comme il est dit à la fin de l'épître, détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact, mais prenez-les en pitié, sauvez-les en les arrachant du feu. Hein, c'est pour ça que, est-ce que avec des gens qui ont des mauvais comportements, est-ce que on se dit oh là là quelle plaie, on a affaire à des gens comme ça, ou est-ce qu'on se dit au contraire bon voilà, il faut qu'on remonte nos manches et il faut qu'on arrive avec l'aide de l'épître de Jude ou d'autres épîtres, qu'on arrive à faire quelque chose qui a dans le bon sens.
J'aimerais juste lire, vous m'entendez? Ça marche? Juste lire le verset 4 de l'épître de Jude. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement des impies. Si on fait un rapprochement avec ce qui est écrit en acte 20 et au verset 29, lorsque l'apôtre Paul parle des loups redoutables qui sont entrés et qui entreront parmi vous, des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Est-ce que ces personnes, ce ne sont pas les mêmes? Et est-ce que ce n'est pas la volonté de l'ennemi de vouloir apporter du trouble de tout temps et au sein des rassemblements?
Alors, je réponds rapidement et d'autres répondront. Oui, Philippe, tu as tout à fait raison sur ce combat. Hein, c'est ce que dit Jude, il y a un combat. Ensuite, l'ennemi, il est quand même tenu en bride par Dieu. Hein, il ne peut faire que ce que Dieu lui permet. Et donc, ce combat est un combat qui est limité par Dieu. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre les loups pour lesquels la discipline de l'Église doit être l'exclusion, parce que ce sont des gens qui font du tort, et puis des gens ici qui ont des comportements qui ne conviennent pas. Et donc, ces gens-là, quelque part, on a bien vu que Jude ne dit pas qu'il faut tous les exclure. Hein, il est dit à la fin de la lettre, sauvez-les, prenez-les en pitié, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur certaines personnes. Nous, à Aix, on a eu par exemple quelqu'un qui t'a demandé, qui est venu, qui est resté avec nous pendant 2 ans, et qui a demandé l'autorisation à l'Assemblée pour prier et imposer les mains aux gens. Alors, je passe sur les détails. Hein, et bien sûr, nous avons dit, il n'en est absolument pas question, et nous ne reconnaissons pas ni cette liberté, ni ce service. Hein, donc, j'espère que tu vois que je suis d'accord avec toi pour ce qui concerne des hommes dangereux, mais dans l'épître de Jude, tous ne sont pas dangereux, non? Qu'est-ce que tu en penses?
C'est l'expression, surtout, ils se sont glissés, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils viennent de l'extérieur et que c'est un travail de Satan, en réalité, parmi les croyants. Est-ce que c'est vraiment des hommes au départ, ou des personnes qui sont croyantes? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que ces impies-là, ils sont... Peut-être qu'on a à leur apporter quelque chose, comme il est dit à la fin, mais il y a quand même un risque et une dangerosité.
Et alors, ce qui me frappe dans Acte 20, le passage que tu as cité, mon frère, là, c'est qu'en fait, effectivement, s'introduiront des loups redoutables au verset 29. C'est effectivement des personnes qui s'introduisent venant de l'extérieur, mais dans la suite, du milieu de vous, au verset 30, se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Malheureusement, il y a des gens qui peut-être ont bien commencé, alors sans être allés jusqu'à la conversion à la nouvelle naissance, mais ont bien commencé, puis à un moment donné, prononcent des paroles perverses pour entraîner, parce qu'ils ont l'intention de faire un parti, d'avoir du pouvoir, de faire... et c'est l'objet de la vigilance que Paul leur demande. D'ailleurs, veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Donc, il me semble que Paul fait la différence entre ces deux catégories.
Oui, tout à fait.
Une remarque sur dans ce comportement des impies, et je vais bien dans le sens de ce qu'a dit Sébastien, au verset 16, à propos des murmures. Hein, des murmures, d'autres traductions disent les éternels mécontents, hein, qui se plaignent de leur sort. C'est quelque chose de voir dans le livre des Nombres au chapitre 14 que c'est parce que le peuple d'Israël aura murmuré 10 fois, on trouve ça entre les versets 22 et 28, que le peuple d'Israël, sauf Josué et Caleb, restera dans le désert et y mourra. Le murmurer contre Dieu, il y a quelque chose d'insensé là-dedans. Au contraire, reconnaître toujours Dieu comme souverain, comme juste et comme amour, c'est une véritable précaution. Murmurer en disant « Oh là là, il fait mauvais aujourd'hui », ou bien « J'en peux plus parce que ce travail est au-dessus de mes forces », ou bien « Décidément, dans l'Église, rien ne va jamais », c'est insensé. Et donc là, je pense vraiment reprendre cette dynamique que Sébastien a voulu dire en disant, mais faisons attention de comment nous regardons aux circonstances, aux gens et à ce qui se passe. Hein, Dieu est souverain, il accomplit une œuvre. Ne nous faisons pas mal en quelque part en dépréciant ce que Dieu fait. Je ne veux pas dire par là que tout est beau et que tout va bien, mais je dis que quelque part dans cette situation, nous avons une place selon Dieu à prendre, et que le murmure est quelque chose qui nous fait terriblement du mal. Et j'ajoute simplement que ne pas murmurer ne veut pas dire qu'il ne faille pas être lucide, hein. Je parle sous votre contrôle. Hein, ouais, il faut être lucide sur les choses, mais se plaindre, ça n'a pas de sens devant Dieu. Quelque part, se plaindre, c'est critiquer Dieu.
Moi, je rapproche toujours très simplement ce verset, la piété dans la tradition d'Arby, je pense. La piété avec le contentement, c'est un grand gain. C'est-à-dire, quand je murmure, c'est que je ne suis pas content. Simple, hein. Donc, et pourquoi est-ce que je ne suis pas content? Parce que ma relation avec Dieu est mal calée, comme j'aime bien le dire. La piété, c'est ma relation avec Dieu. Donc, quand je ne suis pas content de Dieu, si j'ose dire, parce que quand je ne suis pas content des circonstances, des autres, de ceci, de la vie de l'Église, de ma paye, de ce qu'on veut, hein, d'accord, de la vie politique, que sais-je, économique, eh bien, en fait, je suis au fond, quelque part, la Bible me dit que je ne suis pas content de Dieu. On pourrait développer, hein. Et ça, c'est quand même très, très important. Donc, quand je me surprends, moi, à avoir, justement, on peut dire murmurer, râler, être mécontent, ça va jamais, c'est toujours comme ceci, c'est toujours pareil, enfin, etc., je me dis, mais Richard, où en est ta relation avec Dieu? Où en est ta relation avec Dieu?
Il y a une chose qu'on peut se demander, c'est personnellement, que garder d'une lettre comme celle-là? Je pense que chacun peut faire une réponse différente, parce que ça dépend de nos circonstances, de notre sensibilité, de notre maturité. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu universel dans cette lettre, c'est les reproches que Jude fait aux impies en parlant de Caïn, de Balaam et de Corée. Et je trouve que ces trois choses, le chemin de Caïn, c'est de ne pas vouloir revenir finalement à Dieu, hein, de ne pas se repentir. On voit ça en Genèse 4. L'erreur de Balaam, c'est d'être vénal, c'est de faire les choses pour l'argent. Et puis, l'erreur de Corée, c'est de ne pas quelque part accepter la place que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire c'est l'orgueil, c'est de vouloir un peu contrôler sa vie. Et je trouve que ces trois choses, qui sont d'ailleurs peut-être à comparer au principe du monde dont nous a parlé Pierre-Henri, hein, ces trois choses, Caïn, Balaam et Corée, ça nous permet de jauger en fait notre comportement, nos motivations assez rapidement. Pourquoi est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je le fais en révolte à Dieu, Caïn? Est-ce que je sais que ça ne va pas avec Dieu et je continue? Est-ce que je le fais pour de l'argent, Balaam? Ou est-ce que j'essaye de ne pas être à ma place, Corée? Je trouve que c'est intéressant d'avoir ces petites expressions qui me permettent de rétablir mon cap. D'autres, ça peut être la comparaison entre le verset premier et cette expression « appelée à être gardée » et le verset 24 à celui qui a le pouvoir de vous garder de toute chute. C'est vrai que si on a peur de tomber, si on regarde à nos capacités, si on s'autocritique, si on se souvient de manière un peu obsessionnelle de nos chutes, alors on risque finalement d'être troublé et de ne pas avoir la force et la compréhension que donne Dieu. Si au contraire, on entend que Dieu nous a appelés à être gardés et que c'est lui qui nous garde, c'est très fort, je trouve. On a un vrai père, on a quelqu'un qui est toujours là pour potentiellement nous donner ce qu'il faut. Après, c'est à nous à entendre, c'est à nous à nous placer, hein, dans la piété, dans... voilà, est-ce que chaque jour, on prend le temps, comme fait Abraham, de construire un autel, hein, et d'avoir une vie personnelle avec Dieu qui va déboucher sur quelque chose qui me permettra d'être gardé par lui. Et je crois qu'on peut remercier Sébastien pour son travail. Est-ce que peut-être, Sébastien, tu aurais des documents à nous faire passer? Est-ce que les livres apocryphes dont tu as parlé, tu les as en PDF?
J'ai mis dans la fin de la présentation, il y a la référence de l'Enoch éthiopien. Oui. Donc ça, on le trouve dans Wikisource, hein, c'est assez facile. D'accord. Après, sur l'Assomption de Moïse, non, je n'ai pas eu de documents, puisqu'on ne l'a pas vraiment, en fait. Hein. C'est des choses plus ou moins reconstituées, mais ça, je n'ai pas eu de... donc, oui, l'Enoch éthiopien, ça, c'est, on peut le trouver assez facilement. Hein. Il y a... Donc, dans la présentation, à la fin, j'ai mis un lien qui donne une version assez facile à lire et à rapprocher. Donc, les références que j'ai utilisées sont par rapport à cela. C'est vrai que j'ai trouvé une deuxième version, traduction de l'abbé Mine, si je me rappelle bien. Et là, bon, ça ne matchait pas bien au niveau des chapitres et des références. Donc ça, c'était un peu plus compliqué. Mais il y a un monde complet sur les traditions juives dont on a quelques éléments, mais qui sont assez compliqués à reconstituer, je pense, aujourd'hui. Une chose que je n'ai pas dite, peut-être aussi, qu'il faut rappeler, c'est que le livre d'Enoch, manifestement, au début de l'ère chrétienne, était relativement apprécié. On a beaucoup de citations du livre d'Enoch, même par les pères de l'Église. Et c'est un peu après qu'il a été blacklisté. Alors, quelle était la raison? Ça, je ne l'ai pas trouvé. Alors, peut-être qu'il était à l'origine ou il appuyait certaines hérésies, je ne sais pas. Mais en tout cas, au début, je pense que jusqu'au IIe siècle, il était assez apprécié. Et c'est pour ça que ce n'est pas trop étonnant que Jude en ait parlé. Mais après, il a disparu complètement. Donc, on a dû trouver une bonne raison de le mettre de côté. Quoi.
Ça représente combien de pages, ce livre d'Enoch?
Je regarde.
C'est un petit fascicule.
C'est assez important, hein?
C'est un petit fascicule. Alors,
c'est assez gros.
C'est un gros livre, oui.
Alors attends, je te montre même simplement en partage. Voilà, c'est une version PDF. Alors, il y a 156 pages.
D'accord.
Voilà, 105 chapitres. Voilà, c'est un exemple.
Pour avoir une idée de l'importance, oui.
C'est... Il y a au moins deux livres d'Enoch. Je vous signale, si vous êtes intéressé par ces questions qui sont difficiles, que j'ai la collection de la Pléiade qui a édité tous les livres apocryphes. Il faut savoir que les livres apocryphes du Nouveau Testament représentent au moins deux fois le Nouveau Testament, si ce n'est trois. Oui, donc c'est assez important. De plus, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, la nouvelle Tobe intègre le canon éthiopien. Alors, si Enoch en fait partie, je ne l'ai pas en tête, à ce moment-là, ça se trouve dans la dernière édition de la Tobe.
On va peut-être en rester là. Philippe Brun, est-ce que tu voudrais prier pour finir, s'il te plaît ?